Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver sur Europe 1 pour Samedi en France. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, c'est l'émission qui vous fait découvrir dans l'ensemble des régions de France des sites originaux qui ont souvent été oubliés, hélas, des grands circuits touristiques et qui méritent votre visite surtout. Alors, chaque samedi, 4 sites commentés par un des rédacteurs du Guide du Routard. C'est un monsieur qui est un découvreur de lieux magiques, il s'appelle Gavin Clemente-Ruiz. Et c'est pas fini parce qu'en prime, vous aurez droit dans cette émission aux souvenirs joyeux et parfois émouvants d'une personnalité sur la région qu'elle a choisie et qui est désormais son refuge. Aujourd'hui, la Creuse de Annie Dupéré, que Daniel Moreau a rencontré.
Europe 1, 15h-16h,
Samedi en France.
William Lémergie.
Voici le menu du jour. Alors le premier site, c'est un site insolite. Direction l'Anjou pour admirer l'œuvre d'un artiste dans une grotte. Oui, je dis bien une grotte. Il a sculpté la grotte lui-même avec ses petites mains. Après cela, le chef-d'œuvre de l'art gothique, c'est dans l'Ain, imaginé par une femme très amoureuse. C'était au XVIe siècle. Et puis nous irons à Dieppe pour découvrir probablement l'une des plus belles collections d'ivoire de France. Et vous verrez pourquoi elle a été constituée d'ailleurs. Enfin, l'apothéose, si j'ose dire, c'est un site de plein air assez grandiose. Et là, c'est pour vivre une expérience unique au-dessus, je dis bien au-dessus du lac d'Annecy. Mais vous allez voir, c'est très très sécurisé. Tous ces sites se visitent, bien sûr. Alors, le premier site, je vous le disais il y a un instant, nous conduit en Anjou. À mon avis, vous n'avez jamais visité un pareil endroit, à moins d'habiter dans le coin. Alors, où sommes-nous, Gavin? Bonjour.
Bonjour, William. Nous sommes donc en Anjou, vous l'avez dit, et plus précisément à Saint-Georges-des-Sept-Voies. Grosso modo, c'est à une demi-heure de route de Saumur, et c'est là que vous allez découvrir l'œuvre un peu folle d'un monsieur qui s'appelle Jacques Warmiński.
Alors, qui est ce monsieur?
Jacques Warmiński, c'est un artiste plasticien. Il est d'origine polonaise, il est né à Angers, il a fait les Beaux-Arts, il a étudié à la célèbre école Boulle à Paris, et il a imaginé une œuvre qui, d'après lui, devait réconcilier l'homme, l'environnement et l'art.
Oui, alors, c'est un peu ambitieux. Je sais pas comment il a fait ça dans une grotte, finalement.
Il a creusé. Il a creusé la roche, tout simplement.
Comment ça a creusé?
Il est allé avec ses petites mains, comme vous avez dit, puis avec d'autres amis, à la pelle, à la truelle, et puis ils ont creusé.
Ah oui, alors attendez, il faut peut-être rappeler qu'en Anjou, il y a de nombreux sites troglodytes, c'est ça?
Exactement, c'est troglodytique, c'est comme ça qu'on dit.
Troglodytique,
exactement. Mais ce site-là, il n'a rien de commun avec les autres sites troglodytiques locaux qu'on peut visiter par ailleurs. Jacques Warmiński, lui, il a découvert ce site qui était oublié à la fin des années 80. C'était à Saint-Georges-de-Sept-Voies, qui a longtemps été un village. C'est vous dire si la grotte est assez vaste. Et c'est d'ailleurs le village qui a été habité jusqu'en 1930.
Donc, alors, l'artiste creuse, avec l'intention que vous avez signalée. Il creuse. Une fois qu'il a creusé, il fait quoi?
Il continue de creuser. Ça lui a pris 5 ans quand même, entre 88 et 93.
Non, je veux dire, c'est un artiste. Donc, il a dû faire quelque chose. D'abord, il faut nous expliquer sur quelle distance.
C'est entre 8 et 10 mètres de profondeur qu'il a creusé sur l'épaisseur. Et il a extrait près de 1000 tonnes de tuffeau. Le tuffeau, c'est quoi? C'est la roche poreuse, à la fois légère et solide. Et il a aussi coulé du béton, plus de 3000 tonnes de béton armé pour former son œuvre monumentale.
Bon, alors là, on ne s'imagine pas du tout à quoi ça peut ressembler. Et l'idée au départ, c'est de faire quelque chose qui se visite, qui est joli, qui est, je suppose,
et qui a un sens. Exactement. C'est une œuvre d'art, ça ressemble à un grand tunnel. Alors, les parois ne sont pas lisses du tout, elles sont toutes creusées, il y a des formes toutes différentes, c'est du sol au plafond. Il a appelé ça l'hélice terrestre. C'est probablement pour exprimer l'idée qui confort la Terre, vous voyez. Et il lui a donné cette forme très très originale. On n'a jamais vu ça ailleurs, c'est vraiment unique, c'est une prouesse aussi technique. Mais et selon que vous regardez les tunnels, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, c'est très très original.
Ah ouais, ce sont comme des... Moi j'ai comparé ça quand j'ai vu les photos, comme des tunnels que l'on fore quand on crée des voies pour le métro. C'est comme des tubes.
C'est ça, mais en plus beau. Beau parce qu'il y a des formes au mur. Vous allez voir.
Les murs sont sculptés.
Exactement.
Hein.
C'est vraiment très joli. Il y a des formes très, très géométriques. Très...
Mais la forme générale, c'est comme un tube.
C'est un tube, exactement.
Il y en a plusieurs.
Exactement.
Bon, d'accord. Là, j'ai une photo. Vous trouvez ça sur le site, d'ailleurs. C'est tout à fait étonnant parce qu'on a envie de mettre la main dessus. C'est évidemment, c'est en relief, quoi. Mais c'est complètement abstrait.
C'est complètement abstrait. Et tous les sens, vous vous allez voir, tous les sens sont en alerte quand on va rentrer à l'intérieur. Il y a le toucher, parce qu'on peut toucher avec sa main les parois, on peut toucher le tuffeau.
Oui, oui.
Il y a aussi la vue, bien sûr, parce que c'est éclairé, hein, je vous rassure, vous n'êtes pas dans le noir.
Oui, on voit ça, c'est éclairé par le sol. Hein.
Alors, il y a des lumières, en effet, qui sont disposées. Non, oubliez votre lampe torche, William. Il y a aussi l'ouïe, parce qu'il y a une chambre d'écho à un moment de cette rencontre des différents boyaux, et vous pouvez chuchoter des mots contre le mur que l'autre personne de l'autre côté va entendre.
Ah oui, et ça fait le tour du tube et ça redescend de l'autre côté.
Exactement.
J'ai trouvé ça spectaculaire parce qu'on a l'impression parfois de perdre d'équilibre. Rien n'est plat au fond.
C'est ça qui est chouette. C'est que tout d'un coup, le sol est vraiment jamais plat.
Il est sculpté lui aussi.
Et il est sculpté lui aussi. Ouais. C'est infini. C'est ça qui est top.
Alors, on a au téléphone Philippe Lecomte qui fait partie de l'association Arthrodispace. C'est ça,
je l'ai bien dit. Arthrodispace, c'est ça.
Je suppose que c'est un mélange de art et troglodyte.
Ah, je crois qu'il y a un peu de ça. Hein.
Ça doit être ça. cette association-là qui gère les lieux. Bonjour Philippe Lecomte.
Bonjour.
Je ne me suis pas trompé, c'est le mélange des deux, hein, c'est ça.
C'est Arthrodispace, c'est-à-dire art en espace troglodytique.
D'accord. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce lieu?
Moi, je travaille pas, c'est que du plaisir. Donc, voilà, puisque je suis bénévole de l'association, ça fait 20 ans que je viens ici. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà tout vu de ce lieu magique, où vous découvrez de temps en temps encore...
Je découvre encore, je vais pas dire tous les jours, mais presque, selon la lumière, voilà.
C'est inépuisable.
Ah, exactement.
Est-ce qu'on peut visiter ces lieux tous les jours ou alors il faut attendre
visitables tous les jours du 1er avril au 31 octobre.
Est-ce que quand on est sur place, parce que j'aurais aimé voir le visage et voir l'artiste au travail.
On ne peut plus voir puisque lui est décédé.
Oui, oui, bien sûr, ça je sais, mais
On a des
comment il a fait, avec quels instruments
Alors, très peu d'instruments. Il avait deux gros instruments électriques, on va dire un petit marteau-piqueur électrique pour creuser les galeries et pour la partie extérieure, pour le béton, une petite bétonnière électrique.
Et le fait que ça soit une grotte, c'est protégé, c'est jamais abîmé par les intempéries qui peuvent rentrer dans cette grotte, non?
Non. Là, je dirais que les anciens et même Jacques Varmaski s'étaient entourés de géologues. Hein,
oui.
Et il y a une couverture plus ou moins épaisse d'argile qui évite les infiltrations d'eau.
D'accord. Quand on est là-dedans, on peut être dans les grottes au maximum combien ?
On accueille des groupes de scolaires, donc ça peut être une trentaine d'enfants.
Au maximum.
Mais bien souvent, c'est 5-10 personnes, des familles qui visitent.
Hein. Pour y accéder, c'est pas trop compliqué.
Non. Même si pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, ça peut être un petit peu plus difficile, puisqu'il y a des escaliers, des formes qui ne sont pas plates.
Oui, c'est ce que disait Gabi. Voilà. Oui. Bon, très bien. Merci beaucoup pour cette description.
Je vous en prie.
Merci, Philippe. Gavins, le site est ouvert tous les jours, on vient de le dire, mais... On peut rester un peu dans la grotte si on a envie, de pique-niquer. Non, je dis une bêtise, là.
Vous pouvez rester un petit peu dans la grotte pour visiter. Ça dure environ une heure trente la visite. Mais vous pouvez aussi amener votre petit pique-nique parce que dehors, il y a des espaces pour vous installer. Donc, c'est vraiment à l'air libre. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Sachez quand même que ça coûte 6 € pour rentrer pour les adultes et 2 € pour les enfants.
Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit qui paraît très importante. C'est le fait qu'il y a des spectacles. Expliquez-moi de quoi s'agit-il exactement dans un endroit pareil. Parce qu'encore une fois, ce sont des tubes sculptés.
Il y a des spectacles en dehors de la grotte. Ah et bon. Là, notamment pour les journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre prochains, on va pouvoir assister à des spectacles. Alors, parfois, c'est des spectacles de théâtre avec des mises en scène. J'ai vu des spectacles de no, par exemple, le théâtre japonais. C'est vraiment très spectaculaire dans un lieu vraiment très original. Et puis, on peut aussi, si vous le souhaitez, William, aller participer à l'entretien et à la réfection des lieux en aidant sur place, comme Philippe, comme les bénévoles. Par exemple, en ce moment, il faut aller désherber. Donc, allez hop, on met les bottes et on met les baskets, les vieilles baskets, et on y va.
C'est bien. Est-ce qu'il y a un endroit, donc, en dehors du fait qu'on peut faire un pique-nique, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a un endroit où on peut déjeuner? Parce qu'il faut aussi donner ce genre d'indication dans cette émission.
Carrément, juste à côté, vous avez une adresse que j'adore. Ça se situe au Toureil. C'est un petit village à 6 km de l'hélice terrestre, donc. Ça s'appelle la Route du Sel. C'est une belle maison en tuffeau, encore une fois. Et là, on est au bord de la Loire. Il y a la Loire comme ça qui s'écoule juste en face de vous quand vous êtes dans le jardin. Ça a un petit côté guinguette assez charmant. Et vous pourrez goûter un de mes desserts préférés, c'est le crémé d'Anjou.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, c'est de la crème.
Oui, merci.
Avec un petit peu de crème. Et vous rajoutez de la crème par-dessus. C'est délicieux. Bon, c'est pas bon pour le summer body, comme on dit, mais c'est génial.
On ne va pas tous les jours dans une grotte en Anjou.
Exactement. Donc, il faut manger du crémé d'Anjou. C'est obligatoire. 19,50 à midi, le petit menu au Toureil.
On dort dans le coin ou pas ?
Ouais. Donc, comme on a visité une grotte, on va dormir dans une grotte. Je vous propose d'aller dormir chez Farfadine et Troglo. Et ouais, c'est chez Douai, c'est à Douai, la Fontaine. C'est chez Karine et Christophe. Et Karine, elle a un truc, c'est qu'elle fait les moules à crémé d'Anjou.
Elle fait les moules.
Et donc, vous allez dormir dans une belle chambre, troglodytique. Ça coûte 96 euros la nuit pour deux personnes. Et vous allez vraiment expérimenter la vie dans les troglos. Il y a même un spa, si vous voulez. Ah, c'est bon, Farfadine et Troglo. C'est chez Karine et Christophe à Douai-la-Fontaine.
Merci. Tous ces renseignements, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, sur Europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Suite de samedi en France, donc sur Europe 1, à la découverte de sites originaux qui ont, il faut bien le dire, parfois été oubliés. C'est bien pour ça que nous sommes là. Et il faut absolument les visiter. On vous dira pourquoi. Visiter quand vous aurez le temps, vacances ou week-end. Alors, toutes les régions, je dis bien toutes les régions de France seront concernées dans cette émission. Et notre guide, c'est le même, chaque samedi, Gavin Clément-Terruiz, gentilhomme randonneur qui nous emmène. Alors, cette fois-ci, dans un lieu, je dirais noble, dans le département de l'Ain. Alors, Gavin, précisément, où et pour y voir quoi ?
Alors, nous sommes à 3 km du centre-ville de Bourg-en-Bresse. On dit Bourg. J'aime
vous
bien
êtes sûr ?
Ah, oui, je suis
on dit
sûr.
Pas Bourg.
Non, on dit Bourg. On dit Bourg.
Mais quand on dit « je vais au Bourg »,
ah ben, c'est pas pareil. Là, c'est Bourg-en-Bresse. On est à 100 km de Genève, à peu près à 80 km de Lyon. Et on va visiter, en effet, un des chefs-d'œuvre du gothique flamboyant. C'est une pépite de notre patrimoine et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça aujourd'hui qu'il faut en parler. C'est le monastère royal de Brou qui a été créé par Marguerite d'Autriche.
Alors, qui c'est cette dame-là ? Avant de visiter, un mot sur cette femme exceptionnelle. Tout à l'heure, juste avant la pub, je parlais de sa carte de visite assez impressionnante.
Ben, c'est elle la fondatrice du monastère de Brou. En effet, elle est née en 1480. Elle est morte, elle avait 50 ans. C'était une femme qu'on dirait peut-être aujourd'hui puissante. Elle était éclairée. Alors, c'est la petite-fille de Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne. C'est la fille de l'empereur Maximilien d'Autriche. Et c'est la marraine de Charles Quint. Excusez du peu.
C'est une belle carte de visite. Mais c'est peut-être pas fini.
Non, pas du tout. Elle a été, grâce à des mariages arrangés, successifs, tenez-vous bien, encore
à l'époque,
une fois.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Fiancée au futur roi de France. Elle a aussi été infante de Castille, duchesse de Savoie et régente des Pays-Bas. Et enfin, elle va trouver l'amour avec Philibert de Savoie, le grand amour de sa vie. Il va mourir, hélas.
Il est prince, il est duc, comte...
Philibert de Savoie.
Il est Philibert
de Savoie.
Bah, enfin,
c'est un noble.
Oui,
c'est un noble. Et il va mourir trois ans après leur union, hélas. Il va mourir trois ans après leur union. Et ouais, il a que 24 ans, elle aussi. Et c'est alors que va commencer le grand œuvre, j'ai envie de dire, de Marguerite. Elle décide de... Oui, je l'appelle Marguerite tout de suite. Elle décide de construire le mausolée de leur histoire d'amour, en quelque sorte, pour lui, pour elle, mais aussi pour la mère de son époux, Marguerite de Bourbon.
La belle-mère.
Ouais, elle devait bien aimer sa belle-mère. J'embrasse la mienne, en cas où.
Comment elle s'appelle, cette belle-mère ?
Annie. Bonjour Annie.
Bonjour Annie, je vous embrasse aussi. À quoi ressemble alors ce monastère royal. Et pourquoi il est original ? Vous dites que c'est un mausolée de l'amour, au fond, mais ça ne se voit pas dans un endroit sacré.
Vous allez voir, parce qu'on va rentrer dans le monastère et on va voir que ce monastère royal est un des chefs-d'œuvre du gothique flamboyant. Ça veut dire quoi ? On va déjà se rendre compte dans la nef. On est au cœur de l'église qui a été construite assez rapidement quand même pour le XVIe siècle. Il y a des lignes très très pures et il y a des volumes qui sont spectaculaires. La hauteur sous cette nef, c'est vraiment magique.
Gothique flamboyant, il faut peut-être expliquer aux non-professionnels, c'est qu'il y a le gothique qui peut être un peu austère.
C'est ça.
Et le flamboyant, c'est pas, il y a des sculptures qui sont plus voyantes et plus volumineuses, peut-être.
Oui, puis on donne à voir et on éprouve avec des lignes assez... c'est pur, c'est la pureté. C'est la lumière aussi qui est vraiment belle à l'intérieur de ce monastère.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette église, alors ?
Il y a les tombeaux en marbre de Carrare et d'albâtre des deux époux et encore une fois de la belle-mère.
Ah, d'accord. Alors nous sommes en ligne avec Lucie Gouillou, qui est responsable du service du public et de la programmation culturelle. Alors pour parler des œuvres et des expositions, parce que non seulement vous avez parlé d'architecture, ça on a compris, mais il y a aussi des expositions qui sont organisées là-bas, et ça c'est une des particularités du lieu. Bonjour Lucie Gouillou.
Oui, bonjour. Écoutez, merci de me recevoir. Et en effet, c'est un lieu tout particulier, puisque c'est avant tout un monument qui se visite pour l'église et ses joyaux dont a parlé votre collègue.
Oui.
Mais c'est également une particularité parce que trois cloîtres nous permettent aussi de présenter les collections Beaux-Arts du musée municipal de Bourg-en-Bresse.
Ah, oui.
Donc on y vient à la fois pour découvrir le joyau gothique flamboyant qui est cette église, et puis bien sûr toutes ces collections d'art diverses du XIIe siècle jusqu'au XXIe siècle.
Non, parce que moi je me disais, c'est un lieu sacré, est-ce que c'est pas, je ne sais pas, incongru de mettre des expositions comme ça plus modernes, mais au contraire, moi d'après ce que vous me dites, j'ai l'impression que c'est un lieu qui est du coup plus vivant encore grâce à ces œuvres-là. Mais on les voit à quel endroit ? C'est dans des cellules des moines, non ?
Exactement, ce musée, enfin l'ensemble du parcours, après avoir vu les fameux tombeaux, on passe en effet dans les galeries hautes et basses des trois cloîtres. Alors ça, c'est aussi unique en France, hein, cette enfilade. Et ça vous permet également donc de découvrir les appartements de la fondatrice qui aurait dû habiter ces lieux, mais qui malheureusement est décédée trop tôt et n'a jamais pu venir se recueillir sur la tombe de son défunt mari. Et puis ensuite, on traverse les anciennes cellules des moines qui vivaient là-bas, et toutes ces salles sont maintenant investies par ces collections diverses et variées de beaux-arts et d'arts décoratifs.
Ah oui, parce qu'à l'origine, donc, elle avait construit ce lieu, mais pour y habiter, quoi. Elle voulait habiter loin du tombeau de son mari, au fond.
Exactement.
Ah,
à la fin de la régence des Pays-Bas pour le compte de son neveu, le futur empereur Charles Quint, elle avait en effet prévu de se retirer ce monastère royal de Brou pour pouvoir prier sur la tombe de son défunt mari, avec les moines augustins qui étaient déjà installés pour prier eux aussi. Et malheureusement, on l'a dit, à 50 ans, le sort s'acharne, elle n'a jamais vu la moindre construction de ce monastère qu'elle a suivi à distance pendant 25 ans.
Voilà. Quoique à 50 ans, pour l'époque, au XVIe siècle, c'est une vie relativement longue quand même. Il y a aussi de l'art contemporain, j'ai su ça.
Et oui, tout à fait. Toutes les collections, je vous disais, de l'art ancien des Pays-Bas, on passe aussi par le XVIIe, XVIIIe siècle, mais jusqu'au XXe et XXIe siècle, avec de l'art contemporain à la fois abstrait, lyrique, contemplatif, en écho donc à la vocation du lieu au départ monastère, et puis des acquisitions toutes récentes avec de jeunes artistes tels que Lionel Sabaté, Jérémy Gobet. Voilà,
ça permet de faire connaître de jeunes artistes. Bonne idée.
Exactement.
Un petit mot pour terminer, il y a des ateliers pour les enfants, c'est bon à savoir si on y va en famille ?
Et oui, on propose tout au long de l'année des ateliers en famille et pour les enfants, des visites guidées à la lampe torche le soir, des visites contées, des jeux piste au trésor, serious game, enfin voilà. Il y a un panel en effet d'activités pour toute la famille.
Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez été consacré monument préféré des Français, c'était en 2014, dans l'émission de Stéphane Bern, notre camarade de bureau, qu'on salue au passage, et qui nous succédera d'ailleurs à l'antenne tout à l'heure, juste après cette émission.
Écoutez, avec plaisir. Et nous, on était en effet ravis de cette élection. Merci à vous.
Merci, Lucie Gouillou. Merci bien. Alors, Gavitz, c'est beau de l'intérieur, là on a compris, mais alors c'est aussi beau à l'extérieur.
Pourquoi ? C'est exactement ça. À l'intérieur, c'est la finesse de l'église flamande qui domine, mais à l'extérieur, c'est la richesse bourguignonne, notamment avec l'éclat de la toiture qui est vraiment très spectaculaire, ces tuiles vernissées. Vous verrez, il y en a...
Alors là, j'ai une photo là.
Oui, il y en a...
Parce que oui, à la radio, il faut exercer votre imagination. Mais ça, les toits bourguignons, là, on dirait de la lumière qui sort des toits. C'est fou.
C'est exactement ça.
C'est clair. Hein,
150 000 tuiles ont été nécessaires pour réaliser. Bah, c'est des motifs polychromiques. Donc c'est vraiment très géométrique. C'est très, spectaculaire.
C'est en forme de 1, 2, 3, un quadrilatère. C'est jaune, c'est vert et c'est rouge.
Exactement.
C'est beau. Hein.
Et il faut monter le plus haut possible à l'intérieur du monastère pour avoir cette vue spectaculaire sur la toiture.
Mais le monastère de Brousse, c'est pas qu'une église, au fond.
En effet, c'est ça. C'est un lieu où il faut rester minimum 2 heures, si vous voulez tout voir. Il y a les appartements, en effet, de Marguerite d'Autriche, voilà, où elle aurait pu habiter. Ouais. Et il y a le musée et il y a le cloître où vous pourrez assister et visiter les collections permanentes et les expositions qui sont assez originales et assez sympas aussi.
Et fréquentes. Ça se visite tous les jours en ce moment, oui.
Tous les jours. Ça coûte moins de 10 euros pour un adulte. C'est gratuit pour les moins de 26 ans. Je précise, c'est quand même assez long, 26 ans, c'est pas mal. Il y a même des visites commentées d'une heure ou des audioguides si vous souhaitez visiter à votre rythme.
D'accord. Alors, comme on le fait régulièrement désormais dans cette émission, à la fin d'une visite, entre guillemets, d'un site comme on vient de le faire, on vous donne une adresse pour déjeuner, dîner ou même dormir.
Exactement. Ben là, on va aller manger. On va aller à Bourg-en-Bresse, au centre. Il y a la Brasserie Le Français, c'est une institution. C'est là qu'on mange le fameux poulet de Bresse.
Ben, ou oui, alors, c'est ou sûr, alors... on ne peut pas le manger ailleurs.
Ben, hein, c'est ici, il faut en profiter. Ou alors, on va aller manger des grenouilles aussi, les grenouilles des Dombes. C'est aussi la région.
Ah, il faut le dire aux Anglais, ça, ils viendront pas.
La Brasserie Le Français, c'est à Bourg-en-Bresse.
Alors, si vous voulez avoir encore plus d'informations, vous pourrez les trouver dans le tout nouveau guide du Routard consacré à Alain. Il y en a un tous les combien
C'est tous les ans. On le refait tous les ans. Et celui-ci, c'est la nouveauté de l'année. Donc, c'est un des best-sellers de l'été. Donc, tous dans l'un.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Oui, vous écoutez Samedi en France et c'est l'émission qui vous offre le dépaysement maximum dans votre propre pays, en France donc, avec des sites originaux qui ont tous en plus une histoire qu'on vous racontera. Alors Gavins Clemente Ruiz, notre guide, champion toute catégorie de ce genre de lieu, vous emmène cette fois-ci en Normandie. Alors, tout de suite après, vous entendrez les confidences d'Annie Dupéré sur sa région de prédilection, c'est la Creuse. Mais d'abord, la Seine-Maritime. Où exactement ?
Eh bien, à Dieppe, c'est pas très loin de Paris. C'est là que se trouve la plage la plus proche de la capitale, William, à 180 km. Exactement.
C'est pas Deauville ?
Non, c'est pas Deauville, c'est Dieppe. Pour visiter un musée qui se situe dans le château fort et qui renferme une des collections les plus précieuses de France.
Alors de quoi s'agit-il ? Pourquoi elle est si précieuse ?
Parce qu'il s'agit d'une collection d'ivoire. Le plus petit objet en ivoire sculpté que vous verrez mesure 1 cm. Ce sont souvent des crânes qui figuraient sur les crucifix autrefois, jusqu'à des bateaux qui mesurent environ 65 cm en ivoire toujours. Et il y a même une maquette de locomotive du 19e siècle. Elle mesure, elle, 35 cm et elle est sur des rails d'ébène. C'est vraiment très spectaculaire. Alors oui, le commerce de l'ivoire est aujourd'hui réglementé. Il est même interdit depuis de nombreuses années en France. Oui. Mais là, ce qui m'intéressait dans cette collection au musée de Dieppe, c'était l'histoire de la collection. Pourquoi une collection d'ivoire à Dieppe est une collection aussi importante ?
Oui, mais est-ce que c'est lié à l'activité portuaire de la ville de Dieppe ? Il faut savoir que l'activité portuaire, à l'époque, elle n'était pas des plus glorieuses, quoi.
Non, c'est ça, c'est sûr. L'époque, c'était le fameux commerce triangulaire au cours duquel les Européens enlevaient des Africains pour en faire des esclaves destinés aux Amériques. Et dans le même temps, ils récupéraient tout l'ivoire qu'ils trouvaient sur place. Et c'est grâce à ça qu'à Dieppe se sont créés alors des ateliers d'ivoiriers.
Ah bon ? D'ivoiriers ?
Ivoiriers.
Il y en a eu beaucoup ?
Il y en avait plus de 200 à l'époque. Imaginez, à Dieppe, 200. Et au début du XXe siècle, on en comptait encore 12. Et au musée de Dieppe, aujourd'hui, on trouve la reproduction d'un atelier d'ivoirier comme autrefois. Alors, il y a les outils, il y a les burins, il y a les gouges, il y a même la foreuse qui permettait, comme chez le dentiste, vous savez, de fraiser les défenses d'éléphants. Il y a aussi des pochoirs et on vous explique les techniques utilisées pour pouvoir travailler cette matière très, très, très délicate.
Alors, avec nous... Pierre Iskovitch, conservateur du musée de Dieppe. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Combien avez-vous de pièces en tout ?
Alors, pour l'ivoire, on a un peu plus de 2300 objets de toute taille, comme vous l'avez indiqué.
Oui, oui. Mais je suppose que plus elles étaient petites, plus elles étaient difficiles à sculpter, non ?
Alors, oui, évidemment. C'est ce qui a fait d'ailleurs la virtuosité d'un certain nombre des artisans diepois. C'est qu'ils arrivaient à sculpter, par exemple, sur des bouquets de fleurs pour des objets ornementaux, des boîtes à toutes sortes d'usages, des bouquets de fleurs jusqu'à sculpter les mouches et les insectes qui venaient ronger les feuilles, par exemple. Vous voyez,
mais ces artisans, ils sont devenus sculpteurs d'ivoire, mais ils ne l'étaient pas parce que ça ne se faisait pas avant.
Avant, ça dépend de quand on parle, mais l'ivoire a toujours été sculpté depuis la plus haute préhistoire, on peut même dire, avec la dame de Brassempouille, évidemment, et quelques autres spécimens connus aujourd'hui. Mais depuis, en réalité, le XVIe siècle, à Dieppe, on sculpte l'ivoire, et c'était même un peu avant la grande période du commerce triangulaire. C'était une époque où on découvrait les océans, on découvrait les trajets commerciaux qui pouvaient exister entre les continents.
Ouais,
et effectivement, donc on a sculpté l'ivoire en réalité parce que l'ivoire s'est mis à arriver sur place, alors qu'avant, en effet, on sculptait le bois,
oui.
on sculptait l'albâtre, on sculptait l'os, dans ce qu'on appelle la tabletterie. Et voilà. Et donc, on s'est mis à sculpter l'ivoire à Dieppe. Et au début du XVIIe siècle, Dieppe a été reconnue comme quasiment la capitale de la sculpture sur ivoire en France.
Est-ce que ça se vendait bien ?
Ça se vendait alors à toutes sortes de gens. En fait, on a facilement tendance à croire que ça se vendait surtout à la haute noblesse parce que c'est un matériau prestigieux. Ça, c'était vrai, je dirais, du temps en particulier, sans doute au Moyen Âge, où on sculptait toujours l'ivoire. Mais à Dieppe, ce qui est intéressant, c'est que c'est un port de commerce international qui reliait quasiment la Baltique à l'ère méditerranéenne autour de Venise, puisqu'après ça devenait un petit peu dangereux. Et en fait, les commerçants, les marins, les chefs de navire qui arrivaient à Dieppe et qui voyaient des étals, des marches, des ateliers remplis d'objets en ivoire sculpté, se disaient j'en ramène. Et aujourd'hui, lorsqu'on cherche un petit peu, on trouve dans les musées de l'Europe entière, voire du monde entier, des ivoires d'Ipoix. On en retrouve en Pologne, on en retrouve en Sicile, et on en retrouve évidemment au Canada, puisque dans le mouvement de colonisation dont vous avez parlé, alors il y avait le commerce triangulaire, mais il ne faut pas oublier qu'on a essayé de conquérir aussi le Canada à la Nouvelle-France. Eh bien, dans les couvents canadiens, et dans de pas mal d'endroits, en réalité, on trouve des crises, des vierges et des tas de choses en ivoire. Donc, tout complètement identifiable comme du travail d'Ipoix.
Merci Pierre Iskovitch. Merci. À bientôt à la visite de ceux qui viennent de vous écouter. Gavin, est-ce que le musée est ouvert tous les jours là ?
Oui, sauf les lundis et mardis. L'entrée 5 euros, ça va, est gratuite pour les moins de 25 ans.
Alors, on va vous indiquer parfois aussi, quand on vous parle d'un site remarquable, si autour il n'y aurait pas quelque chose aussi à visiter. Alors là, c'est le cas, il y a quoi d'autre ?
Il y a le manoir de Jean Angot pour compléter la visite. On est à Varangeville, à 9 km du musée de Dieppe. C'est un manoir, c'est un joyau de la Renaissance italienne en pleine Normandie. Pourquoi je vous conseille d'aller voir le manoir de ce monsieur Angot ? C'est parce que c'était un grand armateur diepois qui était ami de François Ier. Il était richissime. C'est lui d'ailleurs qui a intercepté le bateau de l'explorateur Cortés quand il avait volé le trésor de Moctezuma, le dernier empereur aztèque.
Oh.
Et il s'agissait d'or. Il devait l'amener à Charles Quint et Angot l'intercepter avant.
Il a gardé tout ?
Il a gardé tout.
Il y a de quoi devenir mécène après.
Après, il a transformé tout ça.
Parfait. Merci beaucoup. Ça se visite tous les jours en saison. C'est bien ça. Vous retrouvez tous les renseignements sur nos réseaux sociaux et à europe1.fr. À suivre maintenant dans Samedi en France, les confidences d'une personnalité. On fera ça à chaque émission. Celle-ci vous parlera de la région de son cœur, comme toutes les autres, parce que nous avons tous un site, un lieu plus ou moins familial, une région, une ville qui reste à jamais dans notre mémoire. Daniel Moreau, pour cette chronique, La France de mon enfance, va partir dans une région magnifique, mais un peu méconnue, c'est la Creuse, avec comme guide Annie Dupéré, qui pourtant n'y a pas grandi. Alors vous pouvez nous expliquer ça ?
Mais en fait, Annie Dupéré est née à Rouen, en Normandie, mais à 8 ans, elle a eu la douleur de perdre ses deux parents. Et exactement. Et elle a reconstruit en fait le pays de son enfance dans la Creuse. Elle va nous expliquer comment elle a découvert cette belle région.
Il se trouve que Bernard Giraudot, lorsqu'on s'est rencontrés, avait déjà acheté une petite ferme qui était dans un tel état, avec une seule pièce habitable, avec une petite fenêtre. Il fallait vraiment de l'imagination pour penser faire un paradis de cet endroit. Mais effectivement, on n'avait ni l'un ni l'autre de maison de famille. Voilà. Et on a pensé très vite construire une famille, faire des enfants. Voilà. Et c'est vrai que moi, née en Normandie, la Normandie pour moi était un champ de mort, vraiment. On avait rasé mon quartier d'enfance, on avait rasé la maison où j'ai été élevée, on a rasé après la maison de ma grand-mère. Et celle où j'ai été recueillie après la mort de mes parents a été rasée aussi. Il y a un signe qui vous dit « ne retourne pas en arrière ». C'est bien le fait qu'on ait rasé tous les lieux où vous pourriez retrouver une mémoire. Donc la Creuse, voilà, j'ai tout à coup été sensible à ce pays à cause, je crois, de la présence du passé. Un passé qui n'était pas le mien, mais un passé qui est celui de la nature. Parce qu'il y a une chose très spéciale en Creuse, c'est les premiers contreforts du Massif central. Donc, c'est du granit, c'est pas cultivable, et il n'y a jamais eu le remembrement en Creuse. C'est-à-dire que ce paysage est resté exactement identique à celui qu'ont connu nos arrières et arrière-grands-parents, à tel point, je vais vous dire, que dans le chemin communal qui passe au milieu de mon jardin, il y a un châtaignier que nous avons mesuré avec mes enfants, tellement il nous fascinait, qui fait 11 mètres de circonférence au pied. C'est-à-dire que c'est cet arbre dont les bords sont morts, mais qui continue à repousser de l'intérieur, donc qui vit toujours, il a au moins 400 ans. Donc ça veut dire que ce chemin n'a pas bougé depuis 400 ans. Et c'est tout comme ça, c'est des petits, un bordel de petits champs, des haies, des petits rues, des petits ruisseaux. Enfin, le paysage est vraiment tout à fait magnifique. Et c'est un passé, évidemment, qui renaît tous les ans au printemps. Et ça m'a été très, très, très bénéfique. Voilà.
Comment expliquez-vous que ce département soit si méconnu ? C'est vrai qu'on ne pense pas à la Creuse en première destination de vacances. Et donnez-nous envie de partir en vacances dans la Creuse.
Ça n'est ni la route du Midi, ni la route des Pyrénées, ni la route de la mer, ni la route de Biarritz. Vous passez à côté tout le temps. Donc pour y aller, il faut vouloir. Mais l'histoire de la Creuse est quand même tout à fait fascinante. Parce que ce trou du cul du monde, comme disent certains, était au courant de ce qui se passait à Paris depuis 10 siècles, bien plus que les autres provinces, à cause des maçons de la Creuse. Tous les hommes, généralement, étaient maçons ou tailleurs de pierre. Et ils montaient toutes les belles saisons à Paris, ça depuis le XIVe siècle, pour construire le Louvre, l'Opéra, tout le boulevard Haussmann, tout ce qui est de monuments à Paris a été, en gros, construit par les maçons de la Creuse. Alors, ils laissaient les femmes, les enfants et les vieillards au pays et ils montaient à Paris, à pied.
Alors, décrivez-nous un petit peu les alentours de votre jolie maison avec jardin. Quel est ce charme discret de votre petit coin de Creuse ?
Il y a des très jolies choses. Ça vaut le coup d'y aller vraiment et de se balader. Alors, les gens, nature, sport, marche, vélo, c'est idéal. Idéal. Les gens qui ont envie de passer des vacances vertes, comme on dit, c'est très bien. Alors évidemment, il y a des choses très connues qui sont les ruines de Crozant au milieu de la Creuse, de la vallée de la Creuse. Monet a peint la vallée de la Creuse. Et il y a un très joli village de peintres qui s'appelle Fresslines. Alors ça, c'est pour la partie, disons, ouest de la Creuse. Il y a la Grande Creuse, le fleuve, la Grande Creuse, avec Crozant et Fresslines. Si vous passez vers Guéret, qui est la préfecture, ne loupez pas un village qui s'appelle le village de Magot. C'est entre Guéret et la ville de Ahun. Et ce village a été sculpté au XIXe siècle par un paysan tailleur de pierre, François Michaud. Et il y a des statues dans tous les coins, qui sont des statues un peu naïves, et il a sculpté toute sa maison. Il s'est représenté avec sa femme, il a fait des colonnes à torsades, et ce village est absolument magnifique et reste un des hauts lieux des tailleurs de pierre. C'est-à-dire que l'été, il y a un festival de tailleurs de pierre, il y a des cours pour les enfants, c'est tout à fait formidable. Un peu plus bas, alors dans la Creuse Sud, il y a un très beau village qui s'appelle Feltin, avec des maisons anciennes qui descendent comme ça. C'est un village qui est très en pente, enfin une petite ville, disons, Feltin, qui va vers un pont romain, le pont Roby. Et il y a une belle brocante, là, d'ailleurs, en fin d'été. Et c'est vrai que sur les bords de la petite Creuse qui coule là, il y a des jardins, Enfin, c'est tout à fait magnifique à visiter. Voilà.
Et merci, Annie Dupéré, de nous avoir parlé de presque la France de votre enfance, en tout cas la France reconstituée de votre enfance. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Annie. Festival de tailleurs de pierre, je ne savais pas que ça existait, ça.
On a appris plein de choses. Gavin, j'ai l'impression que vous pourriez embaucher Annie Dupéré pour votre vie plus tard.
Je l'appelle à la sortie de l'émission.
Voilà.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
On va terminer ce samedi en France aujourd'hui par un site grandiose associé à une expérience en plein air. On va essayer de faire ça régulièrement. Celle-là est très originale, me semble-t-il. Gavin Clemente-Ruiz, notre guide randonneur tout-terrain, va vous la présenter. Alors, d'abord, on va dans quelle région, Gavin ?
Alors, on va en Haute-Savoie, c'est pas loin d'Annecy et de son fameux lac. Vous allez prendre la direction du col des Contrebandiers et là-haut, vous surplombez le lac.
Ben, on surplombe le lac. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde, on fait une photo, on redescend.
Surtout pas, William. Surtout pas. Je vous invite à dormir là, à 500 mètres au-dessus du sol, en plein air. Les seules fenêtres que vous aurez, c'est le ciel et le lac d'Annecy. Quand on dit faire le vide, là, vous allez voir, c'est du concret.
Alors, on va revenir un peu en arrière, parce que vous venez de dire, vous êtes en voiture, direction Annecy et le lac. Et ensuite, quand vous êtes dans le coin, vous prenez la direction, c'est très précis, du col des Contrebandiers. Une fois qu'on est là, on descend, on se gare, et ça dure combien de temps ce qui va se passer maintenant ?
Alors, ça dure combien de temps? Ça va durer 24 heures environ. Vous allez arriver à cet endroit en cette saison vers 17 heures. Mm-hmm. Vous allez rencontrer vos nouveaux amis. C'est un groupe souvent de 4 à 6 personnes, pas plus. Vous faites une petite marche en forêt, 30 minutes. Vous arrivez sur le site au bord de la falaise. Et c'est là qu'on va vous informer sur toutes les consignes nécessaires à connaître avant de partir à l'aventure. Vous êtes plein ouest, vous avez le soleil juste en face de vous. Enfin, j'espère quand même.
Alors, vous avez emporté tout ce qui était nécessaire pour y passer nuit. Et oui, parce qu'on va y passer les pulls, etc. Doudoune, si c'est nécessaire. Et là, on va vous équiper.
Exactement. Tout est prévu. Baudrier, harnais, casque. Ensuite, ça va être la descente en rappel. Il faut y aller. Tout en douceur quand même, je vous rassure. Vous descendez le long de la falaise, ça fait une trentaine de mètres. Et là, vous allez arriver sur une espèce de petite plateforme naturelle. On vous installe. Là, il y a des portaledge. C'est quoi? C'est des lits en toile et métal que l'on accroche à la paroi, faut environ 20 minutes.
On accroche, c'est nous qui les accrochons.
Vous pouvez participer, mais vos accompagnateurs.
Non, mais il y a des professionnels,
il
y a des guides.
Bien entendu. Il y a votre guide qui va être là pour vous expliquer tout ça. Et c'est parfaitement stable, c'est très sécurisé. Et une fois que vous êtes là, vous êtes sur votre lit, vous regardez face à vous et vous avez le lac d'Annecy. Et il y a presque le pique-nique et le repas qui va arriver.
Est-ce que vous considérez, vous, et puis après, aux organisateurs, on leur posera la même question, est-ce que vous considérez qu'il faut quand même être un peu sportif pour faire ça et puis qu'il vaut mieux ne pas avoir le vertige? Ça, c'est clair.
Oui, en effet. Il faut avoir plus de 18 ans et faut être un peu capable de descendre une falaise.
Mais quand vous la descendez, c'est là encore, il n'y a pas des marches, vous n'êtes pas là en train de forcer le long d'une corde.
Non, mais tout ça. Parce que tout est expliqué vraiment rigoureusement et avec attention, et on vous écoute. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, bien sûr, vous pouvez reculer. Et franchement, l'aventure vaut quand même la peine.
Non, on va demander à Guillaume Avrizani de Dinax Aventure, c'est cette société qui fait cette aventure-là. Lui-même, il est guide de haute montagne. Bonjour Guillaume.
Et bonjour l'équipe.
Ça va?
Ça va très bien, merci. Et vous alors?
Nous,
vous
pas
êtes
mal.
Vous êtes
oui, mais nous, on a pas le grand air pour l'instant. Comment vous est venue cette idée? Alors évidemment, vous êtes guide de haute montagne, donc vous connaissez ça, mais l'idée d'installer des lits le long d'une paroi de montagne, ça c'est quand même gonflé.
Alors l'idée, elle est très simple, c'est qu'avec mon ami Philippe, et pendant une quinzaine d'années, j'ai parcouru les montagnes les plus longues qu'il puisse y avoir sur la planète. Notre but, c'était de chercher une falaise la plus verticale possible et la plus longue possible. Donc, ça, on a certaines ascensions qui prenaient plus de 2 jours et jusqu'à 10 jours dans la falaise. Donc, à partir de ce moment-là, au bout de 10 jours, il faut forcément emmener son lit suspendu. Et l'idée m'est venue, un peu en retournant un peu sur Annecy, de focaliser, de faire le focus sur cette partie de l'expédition, sur le dîner, la soirée dans la falaise et le matin. Parce que c'est vraiment assez incroyable. Voilà.
Alors, il faudrait, quand vous écoutez cette émission, vous irez tout à l'heure sur le site de Inax, I-N-A-X Aventure, et vous allez voir des photos. J'en ai une sous les yeux, là. Effectivement, on voit un lit double qui est le long de la falaise avec des cordages. C'est comme une tente. Une partie de la tente est collée le long de la paroi. Ensuite, il y a le sol, s'il vous plaît. Le sol, ce sont bordés par des tubes en métal. Et puis, vous avez 2 matelas et les cordes qui tiennent le tout à la paroi. La description est à peu près correcte, Guillaume?
Et voilà, c'est à peu près ça. Ces 4 tubes, ça forme un rectangle qui sont tendus avec un tissu. Tout est relié par un point central au-dessus, ça fait une sorte de triangle, comme vous avez bien dit, comme une tente.
Ouais.
Et de là, on va installer des petits matelas gonflables avec le duvet pour être plus confortable. Et puis, si on met rien au-dessus, on est vraiment la tête dans les étoiles.
Je vois là, il y a deux explorateurs qui sont sur les matelas. Ils sont allongés, mais on peut se mettre assis. Attention, il y a pas de bordure autour. On est assis, on est accroché par des harnais, mais on est assis ou on est couché et on regarde, on domine le paysage. On est à combien?
À peu près 500 mètres au-dessus du lac d'Annecy, pour vous donner une idée. Et puis, la falaise en elle-même, elle fait 250 mètres. Voilà. C'est vrai qu'au début, ça bouge un petit peu quand vous installez. Après, vous avez vite prendre vos marques. Mais dans tous les cas, vous êtes relié au rocher par une grande longe. Voilà.
Est-ce que, malgré la difficulté, à travers nos propos, on se dit, tiens, mais comment on peut faire un truc pareil ? Vous avez beaucoup de gens qui demandent à faire des choses comme ça ?
Écoutez, étonnamment, j'ai des gens que ça intrigue. Et l'idée d'Inax, ça vient d'inaccessible. L'idée, moi, c'est vraiment de rendre quelque chose d'inaccessible à des gens qui sont complètement novices dans l'activité.
Ouais, d'accord.
Et c'est réussi parce que, franchement, il y a besoin de... Je vous entendais tout à l'heure, vous demandiez s'il fallait être sportif, avoir le vertige, des choses comme ça. Il faut savoir marcher 30 à 40 minutes dans la forêt.
Bon, ça va
et
encore.
Et ensuite, tout le monde a une appréhension du vide. Hein. Quand on arrive au-dessus d'une falaise, c'est naturel. On arrive, on fait un pas en arrière. On n'a pas forcément envie d'aller
dans le vide.
Voilà. Mais tout ça, ça se contrôle, ça se maîtrise avec un peu de patience, l'appréhension du matériel. Et l'idée, c'est de prendre le temps. Et quand vous arrivez au sommet de la falaise, vous allez faire vous-même votre appel. Ouais, on va vous expliquer, c'est le but. Moi, évidemment, je vais vous contre-assurer, il y a toutes ces choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment que ça soit accessible aux gens qui sont novices en escalade.
Je précise, pour m'être renseigné auprès de Gavis, qui a trouvé ce site original, c'est que personne n'oblige ceux qui arrivent là de continuer l'aventure si ça ne leur plaît pas. Ils remontent ou ils ne le font pas. Gavis, d'ailleurs, Clément Terruz a une question à vous poser. Allez-y.
Oui, il faut aussi préciser que si on n'aime pas le fromage, il ne faut pas le faire. Parce que Guillaume, vous ne le dites pas, mais dans le package que vous proposez pour descendre la falaise, il y a la fondue qui est incluse avec les petits producteurs locaux de la Haute-Savoie que vous connaissez bien. Et donc, vous avez la descente et la fondue qui est prévue et le petit déjeuner le lendemain matin. Tout ça, William, pour 390 euros.
Quand même.
Il faut le préciser.
Mais on fait ça une fois dans sa
vie.
Mais
oui, c'est l'anniversaire. Si vous avez envie de faire une fête ou si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, c'est l'occasion ou jamais d'en profiter, de l'envoyer.
C'est pas cher, quoi, 390 euros la trouille. C'est bien.
Et atteindre le septième ciel, c'est quand même génial, non?
Qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs, vos clients, quand ils redescendent le lendemain au lever du soleil? Parce que moi, j'ai une photo là, c'est le lever du soleil, ils ont l'air contents. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Qu'ils ont complètement déconnecté, parce que c'est. On déconnecte, vous déconnectez, et moi aussi, physiquement et mentalement. Quand vous êtes perché dans la falaise, c'est que vous laissez tout ce qui. Vos problèmes, ou pas vos problèmes, mais en tout cas tout ce qui vous appartient au sol, en bas, et vous vivez vraiment pleinement le moment présent. Vous êtes à ce que vous faites.
Franchement, Guillaume, il vaut mieux. Merci en tout cas et bravo pour avoir installé une pareille aventure originale. Ça ne doit pas être faisable partout. Merci beaucoup. Alors, Gavis, ce que je voudrais dire, c'est que 390 euros, je reviens là-dessus parce qu'on va nous dire, dites donc, c'est hors de prix. Non, c'est le prix de l'exceptionnel, non?
Exactement. Inaccessible. Eh bien oui, là, vous pouvez atteindre quelque chose qui est inaccessible. Alors, le prix, bien sûr, mais si vous êtes à plusieurs pour faire une petite fête, pour organiser un anniversaire ou autre, c'est le moment ou jamais d'en profiter.
Voilà.
Fondu et dîner et petit déjeuner inclus, bien entendu.
Si vous voulez faire une surprise à quelqu'un qui est un petit peu sportif
que ou
qui
n'a pas peur de...
Oui, c'est ça,
en lui disant,
viens, je vais t'amener dans un endroit... Ok. On récapitule maintenant les quatre cibles qu'on vous a présentées dans ce samedi en France d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, donc, nous sommes allés en Anjou visiter l'Hélice terrestre, une œuvre d'art creusée dans le tuffeau. On est allé aussi dans l'Ain, voir le beau monastère royal de Brou. À Dieppe, en Seine-Maritime, nous avons découvert la collection d'ivoire exceptionnelle de la ville. Et enfin, pour passer une nuit à la belle étoile suspendue, nous sommes allés au-dessus du lac d'Annecy.
On termine par une petite escapade culturelle. On fera ça quand l'occasion se présente, c'est-à-dire cette semaine ou dans les semaines qui viennent. Là, c'est le cas. Où ça?
On part en Bretagne et on va aller voir une exposition. Ça s'appelle « Amour, récits d'Orient et d'Occident ». C'est dans l'ancienne abbaye du XIIe siècle de Daoulas. C'est pas loin de Brest. On va visiter cette ancienne abbaye où il y a désormais des expositions de renommée. Il y a un très beau jardin classé aussi. Donc « Amour, récits d'Orient et d'Occident », c'est quoi? Ça prouve que l'amour est un sentiment universel, mais qu'il varie selon les latitudes. Et on va le découvrir à travers des photos, des peintures, des vidéos, des œuvres. C'est très très riche, c'est passionnant. Vous y croiserez bien entendu Scheherazade avec ses Mille et une nuits, entre autres. Je rappelle, Amour, récits d'Orient et d'Occident, c'est à l'abbaye de Daoulas en Bretagne. C'est jusqu'au 5 décembre 2021. 8 euros pour les adultes et gratuit pour les moins de 7 ans.
Merci jeune homme. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce Samedi en France. Vous retrouverez toutes les infos nécessaires à la visite des quatre sites, plus le petit dernier que l'on vient de vous présenter. Quatre sites qu'on vous a proposés aujourd'hui sur Europe 1 et sur les réseaux sociaux. Merci d'être resté en notre compagnie. À samedi prochain, quatre autres sites dans quatre autres régions avec des activités différentes et puis des lieux inédits pour la plupart d'entre nous. C'est en tout cas l'objet de cette émission. Merci à Marise Jacquet, à Christophe Pierrot et à Daniel Moreau.